comme une sorte de contradiction interne dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh. Enculé.
Oh. Enculé. Ouh, enculé.
Enculé.
La plus... Les radios.
Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghetto, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
On n'est pas des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité ? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme ?
On n'est pas des cadeaux.
C'est pas en demandant poliment, vous ne feriez pas nous enlever de la nosographie psychiatrique qu'on va l'obtenir. C'est en tapant des poings sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle nous fait subir.
L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches.
La meilleure méthode de contraception, c'est pas la pilule ou la capote, non. Pour freiner le flot de la natalité, il n'est qu'un remède, soyez pété. Soyez donc lesbienne ou bien bisexuée, et dites donc merde à la pharmacopée, et dites donc merde à votre sens chrétien. Regardez vos enfants, c'est tous des mongoliens. On leur a foutu dans leur pauvre crâne qu'un couple idéal, c'est un homme, une femme. Il est temps de dire à nos écoliers, pour changer un peu, devenez pédé. Ça n'empêche en rien d'aimer l'autre sexe. Il ne faut pas que ça devienne un complexe. Pas non plus d'ailleurs un titre de fierté. Roulons-nous des galoches en toute impunité. Foutez donc en l'air ce modèle classique du couple uniforme borné statique. Croisons nos pénis et que...
Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Une épidémie vire est en cours. Veuillez suivre les instructions. Ne restez pas seul avec vos partenaires et évitez les contacts prolongés. Préférez les lieux publics et les plaisirs solitaires.
Bonjour, merci d'écouter Radio Canu. Dans l'actualité aujourd'hui, priorité à l'information. Une édition spéciale consacrée à l'épidémie vire, épidémie qui se propage chaque année un peu plus dans le monde. Selon certains chercheurs, elle atteint un stade critique pour la survie de notre espèce. Le vire, un virus mystérieux dont les origines remonteraient à plus de 200 000 ans. Depuis, la pandémie s'étend. Avec 35 milliards de cibles potentielles, il y a chaque jour des centaines de milliers de personnes contaminées dans le monde. C'est un véritable fléau qui touche tous les pays et pour lequel il existe des remèdes encore trop peu connus. Nous y reviendrons en détail dans cette édition spéciale avec nos invités Stephen Green, membre de l'association Greenpeace, et le cardinal Barbarin. Mais tout de suite, un reportage. Nous sommes allés dans la rue à la rencontre des Français. Alors, psychose collective, inquiétude réelle ou méconnaissance totale ?
Mais en soi, oui, moi je suis plutôt pour donner de l'information à la population, parce que ce soit assez réglementé aussi.
Mais... Il y a les enfants à l'école, donc est-ce que c'est peut-être par les enfants, je pense, parce que c'est les deux parents qui l'ont... Enfin, les symptômes, on les repère vite, ça va pas vraiment dégénérer.
Ouais, mais ça devait sûrement être parce que j'ai pas tellement fait attention quand je sortais dehors, quoi.
Bah si, parce que ça arrive chaque année, si, bah ça se propage, c'est normal. Plus on vit en ville, forcément il y a des interactions, et voilà, quoi.
Mais bon, moi personnellement, j'ai pas vu ça plus qu'autre chose, mais je pense que oui, ça existe, ça a toujours existé, et ça, faut faire gaffe, ça c'est sûr.
Enfin, si on fait un parallèle avec un gamin ado qui a de l'acné, quoi. Je veux dire, à un moment donné, le bouton, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui sorte.
Enfin, je pense que les médias, ils cherchent à nous faire peur, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, on a peur et on pense qu'à ce qu'on a peur, et puis le reste, ça passe.
Après, par exemple, sur les exemples des messages, je trouve que c'est super important parce que c'est plus un devoir pour la population et pour nous aussi, parce que c'est pas un mal en soi, ça nous aide, c'est pas quelque chose qui est dans le vent.
Bah je fais que ça. Non, c'est juste plus fatigant, quoi. Après, on est obligé d'aller au boulot quand même. Hein. On a bu beaucoup d'alcool, je pense que ça...
Comme toi, Martine. On a tué des microbes.
Les huiles essentielles, apparemment, ça marche aussi.
Bien après, c'est un peu les trucs un peu bateaux de tous les jours, c'est de se préparer avant, faire attention. Je n'ai pas tellement de trucs à dire en plus pour prévenir les gens.
Tommy Vazek, pouvez-vous nous en dire plus sur cette épidémie? D'où vient-elle? Comment s'est-elle propagée? Quels sont les signes de l'épidémie?
Alors d'abord, il faut savoir, Cyprien Auvert, que le virus de cette épidémie n'est pas inconnu parce qu'il est très ancien. On le date, comme on l'a déjà dit, à plus de 200 000 ans, mais il s'est beaucoup transformé. Des équipes travaillent actuellement sur les mutations de ce virus qui serait à l'origine de la large expansion de l'épidémie ces dernières années. L'équipe du chercheur Thomas Pair vient de publier une étude sur la provenance des premières souches de la vire, cette épidémie reproductive. Ces scientifiques ont étudié les mutations et la localisation grâce à plusieurs centaines d'échantillons prélevés. Leurs objectifs, comprendre les circonstances ayant permis la propagation de la vire, qui est une version évoluée du virus du lapin. Selon Thomas Pair, le virus restait cantonné dans les terriers, mais il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, et l'épidémie a commencé. Voilà comment s'est passée la contamination entre le lapin et l'humain. Les spécialistes de la maladie vire, la volonté irrépressible de se reproduire, veulent convaincre l'Organisation mondiale de la santé d'accroître les financements. Il est vrai que le coût des médicaments, les conflits ou les tabous culturels ou religieux freinent la prévention et les traitements. En France, chaque année, c'est 1 million de personnes qui contractent la vire, le plus souvent lors de rapports hétérosexuels. Les femmes représentent la très grande majorité des contaminations. On peut noter qu'elles affectent les personnes porteuses d'utérus fonctionnel. Quant aux symptômes de la maladie, Cyprien Auvert, ils sont multiples. Mais on peut retenir que les personnes contaminées peuvent être sujettes à des aménorrhées, des nausées, à de la somnolence, une fréquente envie d'uriner, des aigreurs d'estomac, des crampes abdominales, etc. La transmission se fait lors du contact de spermatozoïdes avec une ovule. C'est particulièrement le cas, comme on l'a déjà dit, lors de rapports hétérosexuels qui sont responsables à 99% de l'épidémie vire, l'épidémie de la volonté irrépressible de se reproduire.
Message de prévention de la commission pro-sexe antinataliste d'Acte d'Arles. pour enrayer la pandémie vire, évitez de pratiquer le BDV ou coït reproductif bidon-vagin. Dans vos pratiques sexuelles, encouragez les stimulations des zones érogènes sur l'ensemble du corps. Préférez les suctions diverses. Découvrez le maintien du gode pour les pratiques pénétratives. Prenez le temps de fabriquer des harnais de cuisses ou de corps pour multiplier les positions. N'hésitez pas à parler, chanter, hurler vos envies. Que les plaisirs parcourent vos entrailles sans risque de reproduction.
Alors, il est 17h10, place dans notre émission sur Radio Canu au débat. Donc, nous avons cet après-midi à notre table présent deux invités. Donc, tout d'abord, Steven Green, membre de Greenpeace. Bonjour, Steven.
Bonjour,
Cyprien. Bonjour. Et le cardinal Barbarin.
Bonjour.
Bonjour. Alors, comme nous avons tous et toutes entendu, ce matin, donc, le ministère de l'Intérieur, Dominique Lapolis, donc, est intervenu concernant l'épidémie vire, et donc nous permet de constater que le gouvernement prend en charge les choses. Alors, du coup, il propose de mettre en place non seulement donc, des spots publicitaires, mais aussi un programme sur 30 ans de changement des manuels scolaires pour promouvoir une attention sur les pratiques individuelles. Monsieur Steven Green, un avis sur ces techniques ?
Eh bien, écoutez, Cyprine, à Greenpeace, nous sommes catastrophés par cette nouvelle, catastrophés par cette décision qui est bien timide au regard de l'urgence de la situation, l'urgence de l'épidémie et l'urgence de baisser le taux de natalité.
Alors, en ce qui concerne la timidité donc de ces mesures, cardinal Barbarin, un avis ?
Eh bien, bien sûr, c'est un sujet mineur, nous pourrions dire, et j'ajouterais même que ce n'est pas à l'État de s'immiscer dans cette chose qui est la plus sacrée de la création, la vie, la naissance d'un enfant. C'est tellement la plus sacrée que je ne comprends pas cet interventionnisme de l'État.
Oui. Alors, on va pouvoir aussi parler de la question de la transmission des valeurs, parce que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ce débat. Concernant les générations futures, Steve Green, un avis ?
Bien, écoutez, je vais reprendre ce que disait le cardinal. Vous parlez de sacralité de la vie, et moi, je pourrais vous parler des générations futures. Quelles valeurs on va leur transmettre, et dans quel cadre ? Imaginez un peu, sur 30 ans, des classes surpeuplées, des familles écrasées par le poids de la misère, débordées de marmots comme dans un clapier, marmailles empoisonnées par la pollution. Nous devons absolument baisser ce taux de natalité.
Ah non, je crois que vous vous égarez vraiment, monsieur Green. Notre natalité, c'est notre projet, c'est notre force. La nation, c'est la reproduction. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Et à travers la reproduction, c'est sauver notre héritage.
L'héritage avec nous, c'est foutu. Il n'y en a plus.
Alors, tout de suite, un message du gouvernement.
Pour vous prémunir contre l'épidémie vire, arrêtez les pratiques à risque telles que l'hétérosexualité. Pour arrêter l'hétérosexualité, faites-vous aider 04 78 39 18 15. Ceci est un message de l'INPES et du ministère de la Santé.
Alors c'est vrai que donc dans les mots de Dominique Lapolice ce matin, il y avait, je le reconnais, monsieur le cardinal, la notion de sujet mineur concernant la politique générale. Je pense qu'il y a légèrement un désaccord entre le ministère de la Santé et peut-être le ministère de l'Intérieur sur la question, on n'en sait rien. En tout cas, il me semble que ces messages sont un peu plus conséquents que ceux qu'on annonçait en termes de projet sur 30 ans de faire changer les mœurs. Est-ce que vous trouvez ça suffisant, Steve Green ?
Non, à vrai dire, ce n'est qu'un début, le début d'une politique qui correspondrait à l'alarme, à la sonnette d'alarme que nous sonnons depuis maintenant des années à Greenpeace. On appelle de nos voeux une politique plus volontariste pour nous sauver de ce naufrage écologique qui attend notre civilisation. Nous allons vers un désastre. Nous consommons trois fois les ressources de notre planète. Quelle planète allons-nous transmettre en héritage ?
L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus.
Je ne comprends vraiment pas ces messages alarmistes du gouvernement. Je voudrais rappeler aux concitoyens que la sexualité majoritaire dans ce pays, qui est la France, qui est notre belle France, c'est l'hétérosexualité, c'est ce bel amour entre un homme et une femme qui conduit à la procréation.
Monsieur Steve Green, excusez-moi, donc
un peuple de sodomites.
Donc, monsieur Steve Green,
d'ici 10 ans,
concerne monsieur. Voilà. Concernant la responsabilité individuelle, vous-même, vous agissez pour la planète, vous êtes vegan ?
Oui, je suis vegan et je pratique le sexe anal. D'ailleurs, j'appelle l'ensemble de mes concitoyens et de mes concitoyennes à s'enculer les uns et les unes les autres pour sauver la planète.
Non mais c'est un scandale, avec des messages pareils, on ne peut pas faire la promotion de plaisir solitaire, la semence, mais c'est sacré, c'est pour nos enfants comme pour tout le monde. Et forniquer, compatriotes, forniquer pour le salut, forniquer pour la nation, la vraie sexualité, je le répète, c'est entre un homme et une femme, et ça doit rester quelque chose de mineur, votre homosexualité sodomite.
Alors merci pour ces interventions, merci à nos invités qui sont là ce soir avec nous, et je remercie aussi la production qui encore une fois a fait de grandes choses en invitant donc deux experts qui sont des hommes pour parler de la question de la reproduction qui, comme on le répète en général dans cette société, est plutôt portée par les femmes. Voilà, donc merci beaucoup, et donc je vous propose, pour se remettre de ce débat, écoutez une publicité pour le planning familial.
Nous savons qu'en été, la volonté de se reproduire augmente. Ses conséquences laissent des traces. Ne laissez pas vos vacances être gâchées. Nous ne pouvons pas réécrire le passé, mais nous pouvons protéger votre futur. Nos agents repèrent la volonté de se reproduire avant même qu'elle ne se produise, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, les conseillères conjugales et familiales peuvent intervenir en quelques secondes seulement dans les centres de planification ou les établissements scolaires. Pour profiter du mode de contraception de votre choix, rendez-vous au centre de planification le plus proche de chez vous ou sur planning-familial.org.
Priorité au direct, on retrouve Tommy Vazek à La Croix-Rousse. Tommy, vous m'entendez ? Tommy ? Oui. Alors, est-ce que là où vous êtes, vous constatez quelque chose qui serait de l'ordre d'une situation de crise ?
Oui, en effet, je me trouve actuellement sur les pentes de la Croix-Rousse. Vous pouvez entendre que l'épidémie est terrible ici. Il y a des bébés un peu partout. À vrai dire, on ne trouve plus aucun endroit sans bébé. Les autorités médicales tentent d'endiguer l'épidémie vire du mieux qu'elles peuvent. Des messages de prévention sont sans cesse répétés, comme on peut l'entendre sur notre radio. Et sur le terrain, une campagne très active active est menée pour apprendre les gestes qui peuvent sauver. On constate d'ailleurs que ça commence à marcher. Plusieurs habitants et habitantes des pentes me racontent leurs gestes de prévention au quotidien.
Ah bah moi je suis allée voir mon médecin, il m'a dit qu'en fumant pas mal, ça pouvait pas mal m'aider à être moins fertile. Du coup bah c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai augmenté la consommation de clopes, je suis passée à 4 paquets par jour et puis j'y vais sur l'alcool aussi. Hein.
Moi j'ai pris des mesures radicales, hein, j'ai arrêté l'eau minérale. Et bah voilà, je me suis mis à l'eau de ville. Il paraît que c'est gavé d'ostrogène. Je compte là-dessus, vraiment.
Bah moi, chez moi, j'ai remis de la tuyauterie en plomb. Bon, c'est sûrement pas suffisant, mais ça me préserve un peu.
Oui, alors moi, ben, je savais pas trop comment faire. J'ai, donc déjà, une des choses que j'ai faites, c'est d'arrêter de manger des légumes bio et des fruits bio. Parce que je me suis dit, plus de pesticides, c'est quand même moins de fertilité. Voilà, parce que bah, ça fait peur, hein. Là, tout ce qui se passe, c'est vraiment flippant.
La peur de la maladie reste quand même très présente malgré les efforts de prévention. On espère prochainement un vaccin efficace qui permettra de lutter contre la vire, la volonté irrépressible de se reproduire. Tommy Vazek, La Croix-Rousse pour Radio Canu.
Alors, merci Tommy Vazek, merci Cardinal Barbarin et merci Steve Green.
Merci.
C'est la fin. Voilà.
Merci.
Oui. Donc, c'est la fin de notre édition. Nous rendons l'antenne.
À cette épidémie, ça a été un choix assez radical, c'est-à-dire que j'ai opté pour la contraception définitive. Voilà, comme ça, on est sûr, pas de risque. Alors la contraception définitive, il y a plusieurs méthodes, mais en l'occurrence, moi j'ai choisi la méthode Essure, qui en gros, c'est une méthode où on vient glisser des petits ressorts à l'embouchure des trompes, pour qu'ensuite elle se bouche toute seule. Les ovules ne peuvent plus passer, les spermatozoïdes non plus. C'est ça, en gros. Pour faire ça, je suis montée sur Paris. Je suis allée au centre d'orthogénie de la maternité des Lilas. Les Lilas, c'est une commune dans le 93. Et en gros, c'est un contact que j'ai eu, alors je ne sais plus comment. Mais en tout cas, il y avait un mot qui tournait un petit peu, que là-bas, c'était possible d'accéder à ça sans que ça soit trop le parcours du combattant. Parce que, bah, bien évidemment, la contraception définitive, quand on est considéré comme jeune, femme, française, blanche, on ne nous pousse pas trop à accéder à ça, au contraire, hein, plutôt, c'est la galère en fait. Et en tout cas, dans ce centre-là, il y a une médecin chirurgienne obstétrique qui pratique ça, et eux, ça fait partie un peu de leur politique, quoi, de le rendre accessible aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, aux femmes qui veulent plus en avoir, etc. Bah, alors c'est un parcours qui est un peu long, parce que j'ai pris un premier rendez-vous avec un médecin généraliste. J'y suis un peu allée décontracte, en mode ça a l'air d'être cool là-bas. Bon, ben, de fait, je me suis retrouvée toujours avec les mêmes questions de pourquoi, mais pourquoi vous êtes allée aussi loin pour faire ça. Alors là, je trouvais que c'était un peu la blague, parce que je me dis, mais eux, ils savent en fait très bien pourquoi. C'est parce qu'en fait, on se fait rembarrer de partout, qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acquis dans les mentalités des médecins, qu'on puisse vouloir ne pas avoir d'enfants. Là, t'as quoi, 2 mois et demi de réflexion. Ensuite, tu rencontres une psy. Alors là, par contre, je m'étais bien préparée, je m'étais dit, oulala, la psy, ok, je vais pas aller sur le versant trop politique de pourquoi je veux pas d'enfants, je vais plutôt axer sur des trucs de ma vie personnelle ou je sais pas quoi. Et en fait, je me suis retrouvée face à une psy très chouette qui m'a dit clairement dès le début qu'elle était pas là pour me dire si elle validait ou non mon choix, mais plutôt pour m'accompagner dans mon choix. Et on a eu de très chouettes discussions. Ensuite, elle chatte avec le médecin, et ensuite un rendez-vous du coup avec le médecin, et où c'est validé, quoi. On valide l'opération. Et ensuite, après, il faut prendre rendez-vous avec la chirurgienne. Et c'est là où ça a été un peu long, parce que avant de prendre, il y a 2 rendez-vous, quoi. Il y a un pré-rendez-vous et ensuite il y a l'opération. Et en fait, l'opération en tant que telle, c'est très simple. C'est vraiment très simple et surtout très rapide. C'est-à-dire, on te fait prendre un petit Atarax, qui est un anxiolytique, pour te détendre, un suppo pour aider à la dilatation du col de l'utérus, parce qu'en gros, la méthode, c'est que eux, ça se fait par les voies naturelles, comme ils disent. Ils passent une caméra, un tuyau au bout duquel il y a le petit ressort, et avec la caméra, il se guide, du coup, hop, il rentre dans le vagin, hop, il passe le col de l'utérus, et dès qu'il voit la trompe, bouf, ils envoient le petit ressort dans la trompe. Et il répète l'opération pour la deuxième trompe, et c'est fini. Du coup, très rapide, moi, c'était pas tant douloureux, et ensuite, au bout de 3 mois, tu fais une échographie pour vérifier que tout est bien en place. Qu'est-ce qui m'a décidé? Dans ma vie, je voulais pas avoir d'enfant. Je crois que ça c'est un choix qui, enfin, en tout cas, c'est je pense que quand j'avais autour de 20 ans, c'était à peu près clair dans ma tête. Et j'ai fait en sorte dans ma vie hétérosexuelle d'avoir un système de contraception. Et puis, ça a quand même pas fonctionné. Je pense que le déclenchement, c'était vraiment ça, c'est que je me suis retrouvée enceinte. J'avais un stérilet à cette époque. Je me suis quand même retrouvée enceinte. J'ai fait un avortement. C'est très bien passé, hein, mais en tout cas, le moment où j'étais enceinte, j'ai super mal vécu. Et je me suis dit, il faut pas que ça m'arrive. Je veux pas que ça me réarrive. Alors, j'avais plusieurs possibilités. Hein. Je pouvais changer de sexualité. Je pouvais pratiquer l'abstinence, et puis aussi je pouvais aussi accéder à la contraception définitive. Et même si j'ai aussi changé des bouts de ma sexualité, je pense que ça a changé pas sur ce truc de me dire je veux vraiment pas que ça soit possible. En fait, je veux pas que ça soit possible que mon corps puisse enfanter, quoi.
Je m'appelle Yvan, j'ai 48 ans et je suis hétérosexuel, ce qui a un intérêt pour ce qu'on va dire maintenant. Alors j'ai fait une vasectomie. Pour ça, il y a un petit processus médical et réglementaire, ou en tout cas légal, qui fait qu'on doit d'abord avoir une lettre de recommandation d'un médecin généraliste, bon, comme à chaque fois qu'on va avoir un spécialiste finalement. Et ça, ça, en réalité, ça a été le seul moment un peu chiant, c'est que je suis allé voir un médecin généraliste dont je pensais que j'allais lui demander sa lettre, qu'elle m'a fait et basta. En fait, il m'a gardé une demi-heure en essayant de me convaincre que je me trompais.
Vasectomie.
Et à la fin, il m'a fait ma lettre quand même. Du coup, j'étais à l'hôpital Saint-Luc Saint-Joseph à Lyon. J'ai vu ce docteur Denis qui est chirurgien urologue et je lui ai dit que je voulais me faire vasectomiser. À partir de ce moment-là, du coup, après la première visite chez l'urologue, il y a un délai légal de 4 mois qui est un délai de réflexion.
Vasectomie.
Alors, il faut aussi savoir que pour toutes les opérations liées à la fécondité, mais c'est la même chose pour l'avortement, les médecins ont le droit de faire ou pas le faire. C'est les seules opérations où les médecins ont le droit de décider de ne pas faire l'opération. Ça s'appelle la clause de conscience. Il m'a aussi informé, comme il y était obligé, que je pouvais décider de faire congeler du sperme à l'avance pour si jamais, plus tard, je changeais d'avis. Ce que moi, qui ne m'intéressait pas du tout. Et puis voilà, rendez-vous 4 mois après pour lui confirmer ma décision et prendre une date d'opération.
Je ne sens plus mes bras et même si je meurs, je n'ai plus de douleur. Vasectomie. Vasectomie.
On m'a enlevé un tout petit morceau du canal déférent. Je ne me rappelle plus très précisément, par exemple, où les spermatozoïdes se forment dans le corps, mais ils se forment quelque part. De cet endroit, ils sont amenés par le canal déférent jusqu'au testicule, où là, ils sont mélangés au sperme. Et après, alors il y a plusieurs moyens de faire une vasectomie. On peut soit pincer le canal déférent, enfin mettre un petit truc autour pour le, comme si on pince un tuyau, quoi, pour plus que ça passe. Ou on peut en couper un petit morceau. C'est ce qu'ils ont fait chez moi. Ils en ont enlevé un petit morceau de, alors, je me rappelle plus, quelques millimètres de long, et ils pincent les deux côtés. Et ça veut dire qu'avec ça, on est sûr que c'est fait et que ça ne changera plus. Ça veut aussi dire que le chirurgien m'avait prévenu à l'avance que c'est possible, c'est théoriquement possible, si on change d'avis, de faire l'opération inverse, mais il m'a dit qu'il y avait 75% d'échecs pour l'opération inverse. Ça veut dire qu'il faut quand même être relativement sûr de soi. Par contre, après, attention, les spermatozoïdes, ils traînent dans le corps pendant un moment. Et il m'a dit qu'au bout de 2 mois, 3 mois, je ne me rappelle plus, il fallait que je fasse un spermogramme, c'est-à-dire que je prenne du sperme, que j'aille le faire analyser au labo pour vérifier si réellement il n'y avait plus de spermatozoïdes dedans. Moi, en réalité, moi, j'ai pas eu de relations sexuelles à risque d'enfantement pendant plus longtemps que ça, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit que c'était bon. Et en parlant avec la première personne avec qui j'ai une relation sexuelle non protégée par la suite, mais du coup, des mois après, elle trouvait aussi que c'était bon. Et donc, à partir de là, voilà, j'étais vasectomisé, je suis stérile.
Vasectomie. Vasectomie.
La vasectomie, pour le coup, c'est un truc que j'avais lu avant et que je confirme complètement, ne change rien de rien au fonctionnement de ma bite et de mes... Enfin, je veux dire, j'ai toujours des érections, je peux toujours avoir des relations sexuelles, j'ai toujours des éjaculations où il n'y a rien de visible qui ait changé quoi que ce soit. Mais alors par contre, la petite chose sociale qui change et à laquelle il faut faire attention, c'est que du coup, ça vient bien plus facilement d'avoir des relations non protégées. Enfin, c'est un truc où je suis pas fier de moi, mais la discipline pour sortir la capote est quand même bien plus compliquée à tenir une fois qu'on est vasectomisé.
Vasectomie. Vasectomie.
Il faut quand même bien dire que depuis tout petit, depuis toujours, j'ai la ferme décision de ne pas avoir d'enfant et c'est un truc qui n'a jamais changé. Depuis aussi longtemps que je peux me rappeler, depuis des moments où je m'engueulais avec mes parents quand j'étais minuscule, hein, où on m'interdisait des choses ou je sais pas quoi, je m'étais dit moi je veux pas me retrouver dans cette position. Et cette décision a été depuis sans arrêt nourrie par la vie, par toutes sortes de réflexions diverses et variées, enfin plein de réflexions aussi d'une banalité totale, hein, comme voilà, dans quel monde on vit, c'est quand même pas un cadeau de mettre au monde quelqu'un dans ce monde-là. Des histoires d'indépendance, quand on a un gamin, c'est un boulet. Enfin, c'est quelque chose en tout cas dont on peut pas ou très difficilement se séparer si on a envie de faire autre chose de sa vie. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer de réflexions d'adolescents révoltés, je les ai toutes eues et en réalité, je les garde encore jusqu'à maintenant. C'est des choses que j'ai augmenté et certainement rendu un peu plus profonde petit à petit, mais sur lesquelles je suis jamais revenu. Après, il y a eu un déclencheur qui a été qu'à un moment, je me suis retrouvé père d'un fœtus qui a été avorté. L'amoureuse que j'avais à l'époque a avorté et ça n'a pas été facile, c'était un avortement chiant. Enfin, bon, pour le coup, c'était une grossesse extra-utérine, donc de toute façon, le machin n'était pas viable. Mais ça a été douloureux physiquement pour elle. Ça n'a pas été facile sur son moral non plus, même si elle était quand même sûre de ce qu'elle voulait, mais quand même, elle disait que ça faisait un truc compliqué. Et en fait, moi, j'avais pensé à la vasectomie depuis longtemps et j'avais juste eu la flemme de me jeter dans le truc. Mais là, ça a été un moment où je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait que elle qui vive un truc pénible et un truc physique et un truc d'hospitalisation, etc. à cause d'un truc qu'on avait fait ensemble. Et ça a été comme ma manière de prendre ma part. Bon, elle, en réalité, je crois qu'elle m'a dit que c'était bien, mais en vrai, ça n'a pas changé grand-chose pour elle. Mais en tout cas, moi, ça, je m'en suis servi aussi pour de déclencheur, pour me dire, OK, maintenant, je téléphone et je prends le rendez-vous et j'y vais. Et alors, quand je parle de ma vasectomie avec des gens, quand même, souvent, les gens me demandent si j'ai regretté depuis. Et la réponse est claire, nette et définitive. J'ai jamais, jamais, jamais regretté depuis. Et y compris dans les moments où j'ai des copains qui ont des enfants, où je m'entends bien avec les enfants, où je rigole bien avec eux, ou je sais pas quoi. Je sais aussi que le fait de pas être parent me donne des possibilités de manière de rigoler avec les enfants que j'aurais pas si j'étais parent. Mais là, c'est le moment où j'ai envie de raconter une petite histoire toute récente, qui est une histoire où je me suis retrouvé avec un copain qui, lui, a des enfants. Et à un moment, sur un truc d'autorité qu'il faisait vis-à-vis de ses enfants, qui rechignait, qui renaclait, il a cherché ma complicité, ma solidarité d'adulte. Et à ce moment-là, de manière hyper spontanée, j'ai fait l'inverse de ce qu'il voulait, en fait. Je me suis solidarisé avec les gamines. Et lui, après, il était là, Yvan, l'autorité parentale, blablabla. Bla, bla, bla. Et en y repensant le lendemain, je me disais que, à cause de ma vasectomie, et aussi parce que j'ai pas le CAPES, je m'étais jamais retrouvé à changer de position par rapport à l'autorité. Depuis que je suis petit, quoi. Et ce truc de pas changer de position, en fait, je crois que je l'aime bien. C'est quelque chose qui est important pour moi et qui vaut le coup. Et là, j'ai repensé à l'émission de On n'est pas des cadeaux que j'avais écouté sur l'éternelle jeunesse. Et d'une manière, je me suis senti faire partie de quelque chose qui pouvait ressembler à ça aussi.
Mardus, reste du lendemain. Un caisson contre la reproduction.
Sous-vêtements thermolactiles de Damar.
Le plaisir en avant, les couilles en arrière.
Damar. Moi, père? Jamais.
Alors, vous êtes bien sur Radio Canu, 102.2, dans l'émission On n'est pas des cadeaux. Et maintenant, on va faire une présentation et des bouts de lecture d'un ouvrage que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est un ouvrage collectif, qui est sorti en juillet 2009, qui s'appelle « Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide ». Donc, je vais piocher à plusieurs endroits dans le livre et je vais commencer par leur introduction. Point de départ, essai de décorsetage. Nous sommes 8 femmes à avoir décidé d'écrire et de publier cette brochure. 8 femmes, de 28 à 74 ans. Certaines d'entre nous ont des enfants, d'autres pas. Ce qui nous a rassemblés et ce qui nous rassemble, ce n'est pas le fait d'être mère ou pas, mais le fait d'être parce que des femmes dans cette société, toutes traversées par la question de la maternité. Ce qui nous rassemble, c'est aussi que nous n'aimons pas ce monde tel qu'il est et que nous voulons agir contre toutes les dominations et les oppressions, et donc, entre autres, contre le patriarcat. Au départ, de notre envie de réfléchir collectivement, il y a l'histoire d'une femme jetée en prison pour infanticide. Cela nous touche et nous interroge. Nous révolte aussi, quand la presse se déchaîne en présentant les femmes infanticides comme des monstres, ou mieux, comme des malades. L'infanticide touche au sacré, au mythe. Il remet en cause le statut sacré de l'enfant et le rôle sacré de la mère qui donne la vie. C'est pourquoi il est tabou. Les femmes sont aussi contraintes au silence, à la fois par la menace d'une lourde condamnation et par la réprobation morale de toute la société, y compris elle-même. Il est bien évident que pour les femmes qui le vivent, un avortement à 9 mois n'est pas le même qu'à 3 mois. Une fois cela dit, ce qui nous intéresse ici, c'est notre situation commune face à des grossesses non désirées. C'est du point de vue des femmes, de notre point de vue, que nous voulons élaborer une définition de l'infanticide. Voici quelques tentatives de définition.
Acte par lequel une femme fait disparaître le produit d'une grossesse non désirée
arrivée à terme. Situation dans laquelle se trouve une femme déterminée à ne pas donner suite à une grossesse non désirée, arrivée à terme. Attitude qui traduit la détermination d'une femme à faire disparaître le produit d'une grossesse non désirée, arrivée à terme.
Comme n'importe quelle définition, les nôtres sont froides et c'est volontaire. Au moins sont-elles exemptes de tout jugement moral et chaque mot y est pesé. Elles ne rendent évidemment pas compte des mois, des semaines de solitude, de trouille, à se débarrasser comme on peut, seul, pour se débarrasser du fœtus. Elles ne rendent pas compte de la violence vécue, une de celles liées à la domination, ni du fait que c'est la femme toute seule qui prend en charge le problème, hors contrôle, hors cadre légal, faute d'autres moyens d'aide, qui n'ont pas fonctionné, n'ont pas été utilisés ou n'existent pas. Si des femmes ont encore aujourd'hui recours à l'infanticide, c'est qu'aucune autre solution n'a pu être mise en place en amont pour éviter l'arrivée d'un enfant qu'elles ne peuvent pas avoir. Le monde qui les a isolées va ensuite les juger et les condamner. Pour finir, nous rappelons qu'une femme n'est infanticide que si son acte est exposé au grand jour par une mise en accusation. Les autres ne seront pas mères cette fois-là. L'idéologie nataliste en France n'a pas fléchi aujourd'hui. En effet, l'État encourage toujours à faire des enfants, comme le montre par exemple l'attribution d'une prime de naissance, l'existence de congés maternité, la retraite précoce accordée aux fonctionnaires qui ont plus de 3 enfants, les réductions de tarifs pour les familles nombreuses. Bien sûr, faire des enfants demeure le symbole de l'avenir et de la croissance. Cette idéologie repose sur l'idée que faire des enfants, c'est assurer le renouvellement d'une population et l'équilibre, et équilibrer son vieillissement dû à l'allongement de l'espérance de vie. Les enfants représentent aussi un marché important, couches, jouets, loisirs, etc. et une source d'activité économique non négligeable, crèche, école, formation, apprentissage. Pourtant, s'il ne s'agissait que d'assumer la reproduction nécessaire au renouvellement des générations et à la machine économique, la croissance démographique mondiale et l'arrivée de populations venues d'ailleurs ne pourraient-elles pas y pourvoir ? Ne soyons pas naïves. Des rigidités nationalistes toujours vivaces contribuent à faire de l'immigration une menace de dilution de l'identité nationale et à compter, pour la perpétuation de cette identité, sur de nombreuses et nécessaires naissances françaises. L'idéologie nataliste n'a pas été affectée par la législation de la contraception et la dépénalisation par celle de l'avortement.
Et donc, ce bouquin, il était sorti en 2010. C'est déjà, en fait, c'était il y a 8 ans. Moi aussi, il m'a énormément plu. Il m'a filé, pas une claque, mais une sorte de plaisir ultra fort à le lire. Et surtout, ça a fait beaucoup débat autour... de moi, il y a eu beaucoup de discussions derrière, et c'est aussi ça qui me parle et qui me touche là-dedans. Et ce livre, c'est un ouvrage collectif, comme tu l'as dit, écrit par différentes femmes, et c'est un livre qui a été autodiffusé, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans, il n'a pas été édité, il a été diffusé de la main à la main, et il a extrêmement bien été diffusé comme ça. Et maintenant, si vous voulez le lire, il est trouvable aux éditions Cambourakis, la collection Sorcière. Il a été édité par cette éditrice. Mais voilà, pendant des années, il a circulé aussi hors réseau. Et ce qui est aussi ultra touchant, c'est qu'il y a ces témoignages de femmes qui ont été récoltées du coup en prison. Et donc, c'est vraiment ouf comment ça vient changer le focus et déplacer vraiment pendant tout le long du livre, déplacer la question. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à le faire, il est extrêmement passionnant et vous verrez, ça fera tonne de discussions avec vos amis.
Thank you.
Votre sécurité, la SNCF vous demande d'indiquer vos noms et prénoms sur tous vos enfants et de ne pas les laisser sans surveillance. Des étiquettes sont à votre disposition dans les kiosques accueil SNCF. Merci de nous signaler tout enfant qui vous paraîtrait suspect ou abandonné afin de faciliter l'intervention des équipes de déminage. La lutte contre le vire est l'affaire de tous. La SNCF vous remercie pour votre vigilance.
Et on va écouter tout de suite un extrait, l'extrait d'un entretien de Françoise Vergès qui nous raconte un peu la gestion de l'empire colonial français après-guerre et notamment le contrôle des naissances dans les départements d'outre-mer.
La volonté de se reproduire découle sûrement de facteurs multiples, elle est notamment le résultat d'une construction politique. En effet, les politiques incitent certaines personnes à se reproduire, alors que d'autres en sont empêchées. Et ces politiques peuvent prendre différentes formes, comme les allocations familiales qui sont versées quels que soient les revenus des parents et qui les incitent donc à la natalité, comme le changement d'état civil conditionné entre autres pour les personnes trans à une opération de stérilisation, comme l'exclusion de la procréation médicalement assistée pour toutes les personnes qui ne sont pas en couple hétérosexuel, comme les avantages fiscaux pour les héritages de celles et ceux qui ont les plus gros patrimoines et les meilleurs comptables, ou encore comme la clause de conscience qui permet aux médecins de refuser à des personnes qui leur demandent un avortement ou une contraception définitive. Dans l'histoire coloniale de la France, sous prétexte de lutter contre la surpopulation dans les territoires colonisés, ces politiques prennent aussi la forme de stérilisation forcée des femmes indigènes. Françoise Vergès, à propos de son livre « Le ventre des femmes », capitalisme, racialisation, féminisme.
En fait, à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, la France se demande comment gérer son empire colonial. Le racisme est universellement condamné. La France est quand même très présente dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La condamnation du racisme est universelle après le nazisme. Donc la France ne peut plus tenir le même vocabulaire raciste qu'elle tenait quand elle avait son empire colonial avant la guerre. Puis bon, les choses changent quand même, il y a une mentalité qui change, donc elle propose l'Union française, qui est une espèce de fédération à ses anciennes colonies. Et donc, qui va durer quand même quelques années. Mais pour ce qui est de ce qui vont devenir des départements d'outre-mer ou territoires d'outre-mer, dès 1945, les experts déclarent que leur développement sera impossible. Donc, dans le premier grand plan de développement qui est entre 1947 et 1954, le gouvernement dit « ça, c'est impossible ». Il n'y a que deux solutions, l'organisation de l'émigration et le contrôle des naissances. Et donc, ils seront pleinement appliqués dans les années 60. La politique d'immigration se fera à travers le BUMIDOM, le Bureau d'organisation d'immigration des départements d'outre-mer, qui fera partir des dizaines de milliers de jeunes, des Antilles, de la Réunion, un peu moins de Guyane, parce que la Guyane était sous-peuplée. Et ce qui fait qu'ailleurs aujourd'hui, il y a plus d'Antillais en France que dans les Antilles, que dans les deux Antilles réunies. Et l'autre politique, le contrôle des naissances, qui sera donc pleinement appliqué dès les années 60. Au moment où en France, donc, l'avortement continue à être un crime sévèrement puni, comme on le sait. Cette idée de la surpopulation de ces départements devient une vérité, alors que, à la sortie de la guerre, il n'y a pas de surpopulation du tout. Il y a une mortalité infantile, des taux de mortalité infantile énormes. Et effectivement, il y a beaucoup d'enfants, les femmes font beaucoup d'enfants, ont beaucoup de maternité, mais compensant, moi je me souviens, même quand j'étais petite, à l'île de la Réunion, dans les années 60, les femmes me disaient 12 enfants, 9 vivants. Donc elles donnaient le nombre d'enfants qui étaient morts qu'elles avaient. Donc il y avait beaucoup de mortalité infantile, il y avait très peu de soins. Mais cette idée de la surpopulation devient une vérité, et la cause de la pauvreté, donc ce n'est pas l'esclavage et le colonialisme, mais ce sont les femmes qui font trop d'enfants qui sont les causes de pauvreté et de sous-développement de ces territoires. Donc il faut imposer le contrôle de la naissance. Et c'est un discours qui, comme vous le disiez, va devenir complètement adopté. Ça se mêle à un mépris pour les femmes du peuple. Un mépris qu'on connaissait aussi en France, hein, c'est-à-dire la sexualité populaire est toujours regardée avec mépris, ces gens couchent à droite et à gauche, ils ne veulent pas se marier, enfin, si vous voulez, l'idéologie de la famille, avec les enfants, le mariage, la bourgeoisie trouve que le peuple ne le fait pas assez. Mais aller dans les départements d'outre-mer s'ajoute le racisme, c'est-à-dire l'idée d'une sexualité noire complètement infantile presque. On aura Michel Debré qui dira ces gens ont des relations sexuelles parce qu'ils ne savent pas quelle pourrait en être la conséquence avec les nuits tropicales. En fait, tout un discours tout à fait colonial raciste. Donc cette idée de surpopulation s'ajoute aussi à un mépris et à une idée totalement raciale sur la sexualité noire et une surpopulation qui menace la sécurité, qui menace le développement, et donc il faut intervenir. Et puis, c'est quand même l'époque de la décolonisation. Donc, ces enfants qui naissent représentent une menace pour le monde occidental. N'oublions pas aussi que c'est l'époque de la guerre froide, donc représentent une menace pour le monde qui s'appelle le monde dit libre. Donc il y a toute une idéologie, oui, qui est une idéologie à la fois française et globale à l'époque, qui est liée à la peur des mouvements de décolonisation, à la guerre froide, à la reconfiguration du capitalisme global. Il y a toute une redécision de où est-ce qu'on va développer les choses. Vous voyez, on n'a plus besoin autant de ces économies de plantation. Les bananes, le sucre, tout ça, ça deviennent des économies quand même mineures dans la configuration du capitalisme français. On s'intéresse plus aux richesses que posséderaient les anciennes colonies africaines, l'uranium, enfin le nickel. Donc il y a aussi une reconfiguration, il y a aussi le fait que la France, elle a besoin de travailleurs. Le mouvement se fait dans l'autre sens, si vous voulez. Avant, c'était d'envoyer les colons. Le mouvement se fait dans l'autre sens, on a besoin de travailleurs. Donc tous les travailleurs qu'on connaît, enfin les travailleurs, ce qu'on a appelé les travailleurs immigrés, venant des anciennes colonies d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, mais aussi avec le bumidum venant des Antilles et de la Réunion. Parce que dans les services publics, vous ne pouvez employer que des personnes de nationalité française. Et donc, les Français ne voulaient plus travailler dans les postes sous-payés, dans la poste, les hôpitaux, les hospices, les crèches, enfin tous les services publics français. Et donc, ces postes seront occupés par les personnes, les femmes et les hommes venant des départements d'outre-mer. Donc, quand on parle de surpopulation, il faut comprendre que cette idéologie s'inscrit dans un terrain très global de repenser l'économie, de repenser la distribution au niveau aussi global. C'est tout un calcul qui s'organise, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte pas, où est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce qu'il ne faut pas développer, qui a le droit de naître, qui n'a pas le droit de naître, tout ça. Et donc, il y a des experts, comme on dit, qui se penchent là-dessus.
Ah, on n'est pas des cadeaux. Pour enrayer l'épidémie et contrer la propagande nataliste, on vous propose donc, à la fin de cette émission, et tous les matins, d'écouter cette chanson de Petra Pied de Biche qui s'appelle « Bébé ».
Message spécial pour clore cette émission pour tous les enfants qui nous écoutent. Cette émission critique la reproduction, pas vous. Et surtout si vous n'en pouvez plus de vos parents, rejoignez-nous. On est beaucoup plus drôles qu'elles et eux, même si on n'est pas des cadeaux, mais surtout, on sera toujours de votre côté. Voilà, et ben, bonne fin d'après-midi
et à dans deux semaines. Et la semaine prochaine, c'est Lilith, Martine et les autres. Et maintenant, c'est
fini.
Fini.